José Moselli, La dernière chance de Billy Hopkins. Chaque médaille a son revers. Si le métier de chercheur d'or comporte d'heureuses surprises, il ménage d'amères déceptions, déceptions beaucoup plus nombreuses que les dites heureuses surprises. Billy Hopkins, 50 ans d'âge, les épaules voûtées et le poil grisonnant, en savait quelque chose. Il avait successivement, bien que sans succès, prospecté les champs d'or du Transvaal brûlant et du Klondike glacé. Plusieurs fois, il avait cru sa fortune faite. Au Transvaal, il avait découvert un terrain où l'or abondait, mais il se trouvait que ce terrain appartenait déjà à une puissante compagnie qui l'avait obligé à déguerpir. Et au Klondike, ça avait été pire. Billy Hopkins avait récolté une trentaine de kilos d'or. Muni de ce butin, il s'était dirigé vers la côte pour s'embarquer pour la Californie, son pays natal. Mais en chemin, une troupe de bandits l'avait dévalisé, et il avait été bien heureux encore de conserver sa peau sans rien de plus. Maintenant, car c'était un homme persévérant, Billy Hopkins, à cheval sur un maigre mulet au flanc pelé, arpentait lentement le flanc d'une des nombreuses Sierras qui s'étendent aux confins de l'État de l'Arizona et de la frontière septentrionale du Mexique. Car cette fois, le vieux Billy, une fois de plus, croyait sur le chemin de la fortune. 3 jours auparavant, il avait eu l'occasion de soigner et d'enterrer subséquemment un jeune gaucho blessé à mort d'un coup de Navaja dans un cabaret des environs. L'homme, un Mexicain, avait voulu témoigner sa reconnaissance à son infirmier. Non sans solennité, il avait indiqué à Hopkins un endroit merveilleux, le Canyon Blanca, où un étroit torrent roulait des paillettes d'or par milliers. Du moins, le gaucho l'affirmait. Et cette affirmation faite, il était mort. Hopkins, après l'avoir enterré décemment, c'est-à-dire sous une croix de bois au bord de la route, et avoir fait sa déposition au coroner le plus voisin, s'était immédiatement mis en route vers cet admirable Canyon Blanca, un défilé situé au plus profond de la Sierra de las Nariz. Après s'être plusieurs fois égaré, il en était tout proche maintenant, et à la pensée de l'or qu'il n'allait pas manquer de recueillir, un mourant ne peut mentir, le bon Billy tressaillait d'impatience. « Plus vite, Manuelita » grogna-t-il amicalement à l'adresse de sa mule. Mais le pauvre animal faisait ce qu'il pouvait, il ne pouvait pas grand-chose. Au surplus, Billy Hopkins se trouvait presque à l'entrée du canyon. Lui et sa bête s'engagèrent dans un étroit défilé, dominé par des rocs à pic, et après quelques centaines de mètres, débouchèrent dans un vaste ravin, au milieu duquel un large torrent, presque à sec, coulait en murmurant contre les rocs dont son lit était parsemé. Oh, « L'endroit paraît bon, » murmura Billy d'un air connaisseur. Il sauta à terre et, après s'être assuré d'un coup d'œil qu'il était bien seul, conduisit sa mule dans une anfractuosité creusée dans les falaises du roc dominant le ravin. Oh, « Pas loin de midi, » grogna Billy, sa bête entravée. « Ça va. » Vivement, il défit le chargement de la mule, d'où il tira divers outils et une botte de corned beef qu'il ouvrit et engloutit en quelques minutes. 3 gorgées de whisky complétèrent ce brave repas et Billy Hopkins se mit à l'ouvrage. Ayant en main son large panne, ustensile assez comparable à un vulgaire poêle à frire, notre homme entra dans le torrent. Il eut bientôt de l'eau jusqu'aux genoux. Il s'arrêta alors et doucement écuma le fond de la rivière. Son panne en ressortit rempli d'un sable fin et noir. Billy alors plongea l'ustensile dans l'eau en lui imprimant un léger mouvement de rotation de façon à dissoudre le sable qu'il contenait. Les grains de sable, entraînés par l'eau, glissèrent hors du panne qui bientôt ne contint plus que quelques parcelles de gravier les plus lourdes. Il aurait dû aussi contenir des paillettes d'or si le torrent n'eût recelé dans son sein Mais pas de paillettes. Billy Hopkins hocha la tête. Oh, il était brave à se décourager au premier essai. Une seconde fois, il plongea son panne dans le cours d'eau. Et il n'obtint pas plus de succès. Il résolut de changer de place et, à pas lents, remonta le cours du torrent. Sans résultat, d'ailleurs. Des heures et des heures, le pauvre Billy racla en vain le fond de la rivière. Le gravier abondait, mais, quant alors, par traces. Pas la plus petite trace. Cependant, Billy continua ses recherches. Il ne s'était pas trompé. Il reconnaissait l'endroit dont le gaucho lui avait fait la description. Alors il persévérait. On a vu les prospecteurs fouiller en vain une place où s'en allaient découragés. Et peu après, d'autres au même endroit découvrirent des fortunes. Faut pas être impatient. Mais le jour baissait, la nuit était proche. Billy Hopkins, entraîné par l'ardeur de ses recherches, s'était fortement éloigné de l'endroit où il avait laissé sa mule et se trouvait maintenant dans une gorge étroite envahie par la végétation. Fougères, arbres de toutes sortes, buissons énormes faisaient une ceinture verte au torrent et cachaient les berges. Billy Hopkins, les reins en marmelade, se redressa péniblement et regarda le ciel obscurci d'où le soleil avait disparu. Je vais, murmura-t-il. Sa voix expira dans son gosier. Non loin de lui, des voix résonnaient dans le silence du soir. Tout son sang afflua à son cœur à la pensée que d'autres que lui connaissaient l'endroit et qu'ils allaient lui voler son or. Ne songea même pas qu'il n'avait rien découvert encore. Tout d'abord, il voulut se dissimuler. Il était connu dans la contrée. Si d'autres le voyaient dans le Canyon Blanca, ils en concluraient que le torrent recelait de l'or, ce qu'il fallait éviter. Mais la curiosité fut la plus forte. Au risque d'être vu, Hopkins voulut savoir ce que disaient les inconnus. Avec des précautions de Huron sur le sentier de la guerre, il se courba et marcha vers la rive d'où partaient les voix. Il fut bientôt sous les fougères de la berge et s'arrêta haletant. Maintenant, il entendait parfaitement. Où n'était pas question d'or. Ah, Billy respira, mais tout aussitôt un frisson le secoua. Alors, c'est bien compris, Master Roskendorf, dit Uzette d'une voix sèche. Et en plus des 10 000 $ que je viens de vous remettre, il y en aura 10 000 autres dès que les journaux m'auront appris que votre tâche est accomplie. Et que ce soit le plus tôt possible, naturellement. Oh, cette nuit même, les 8 trains de munitions qui sont en gare de Thurston sauteront, Herr Major. Les charges de dynamite sont préparées. Je les ai placées sous la citerne d'alimentation de la gare. Il me reste qu'à les mettre en place et à les amorcer, ce qui sera vite fait. Pas vrai, Schmitz? Natürlich, fit un troisième individu. Billy Hopkins s'était mis à trembler. Il tremblait d'indignation et de dégoût. À travers les branches, il distinguait parfaitement les silhouettes des trois hommes. L'un d'eux était à cheval, c'était celui qui avait été interpellé du nom de Major. Les deux autres étaient debout sur le sol et se tenaient aux côtés de leurs chevaux dans une attitude attentive et respectueuse. Billy Hopkins, du coup, avait oublié ses rêves de fortune et la première cause de sa présence dans le Canyon Blanca. Une seule idée s'imposait à son esprit. Oh, mais il faut que je supprime ces misérables espions dynamiteurs! Machinalement, il tâta sa carabine passée en bandoulière. Lorsqu'on prospecte, il faut s'attendre à tout et être armé. L'arme, un Winchester, ne contenait que 2 balles. Et les espions étaient 3. Pendant que Billy abattrait les 2 premiers, le troisième fuirait. Et pour le rechercher dans le dédale de la Sierra, autant vouloir retrouver un grain de sable dans la mer. Cependant, le temps pressait. Les trois hommes échangeaient leurs dernières recommandations. D'un moment à l'autre, ils allaient s'éloigner. Billy Hopkins, lentement, lentement, sans seulement froisser une des nombreuses feuilles parmi lesquelles il était enfoui, se redressa. Sans bruit, il décrocha son fusil, l'arma et en glissa le canon parmi les branchettes. « Alors, ici même, à la même heure !» grogna le major. « Je vous y attends tous les deux le jour qui suivra l'annonce dans les journaux de la destruction des... » Le double détonation, accompagné immédiatement de deux cris de douleur, retentit. Le major, une balle dans la tête, s'abattit sur l'encolure de sa monture, qui effrayait Henny, s'enfuit au galop, tandis qu'un des deux autres individus, la poitrine trouée, s'aplatissait sur le sol, la face en avant. « Undone !» gronda le troisième personnage, qui bravement sauta sur son cheval dont il creva le ventre à coups d'éperon. Le malheureux animal, Henny de douleur, et détala furieusement droit devant lui. Presque aussitôt, Billy Hopkins, sa carabine fumante au poing, apparut d'entre les branches, juste à temps, pour voir le fugitif disparaître parmi les arbres. Billy était un homme de décision. Il se rua vers le cheval de l'individu dont il venait de trouer la poitrine. L'animal, effaré, flairait d'un air inquiet le corps sanglant de son maître. Billy Hopkins lui sauta sur le dos et le lança à la poursuite du fuyard. Après quelques minutes, il constata qu'il gagnait sur le fugitif. Tout en excitant sa monture, Billy, tant bien que mal, rechargea son arme. Deux minutes plus tard, il pénétrait dans une vaste clairière, juste au moment où celui qu'il poursuivait, l'ayant traversé, lançait de nouveau son cheval à travers les fourrés. Billy leva sa carabine et fit feu, bien visé. Il vit le fuyard dégringoler de son cheval et disparaître entre deux buissons. Peu d'instants après, Billy le rejoignit pour constater qu'il était déjà mort, le cerveau troué par sa balle. C'était à lui que le major avait versé les 10 000 $. Billy, sans hâte, fouilla les poches du mort et en retira un énorme portefeuille bourré de banknotes qu'il mit froidement dans sa poche. Les vêtements de l'espion ne contenaient rien d'autre sauf une pipe et une blague à tabac. Billy, alors, remonta sur son cheval et retrouva sans peine les deux autres bandits. Eux aussi étaient morts. Par les papiers qu'il trouva sur l'un d'eux, il sut qu'il avait tué le major von Trintz, attaché à l'ambassade d'Allemagne au Mexico, lequel major possédait un superbe chronomètre en or que Billy s'appropria également. Il passa le reste de la nuit à enterrer ses victimes et le lendemain matin, ayant enfourché sa vieille mule, quitta le Canyon Blanca pour n'y plus revenir. Cette fois, il abandonnait le métier. Les 10 000 $ de l'espion allemand lui suffisaient. Ayant cherché de l'or, il avait seulement trouvé des billets de banque et n'en demandait pas plus. Il prit soin, simplement, d'avertir par lettre le chef de garde de Tucson que la dynamite était cachée sous sa citerne et il regagna la Californie, où il vit maintenant heureux et sans soucis.